J'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Moudima, au Katanga oriental. Je réfute totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, la vie de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Émission Parole aux auditeurs. Le président de la République démocratique du Congo doit stopper l'exécution massive de plus de 170 personnes. C'est l'alerte lancée par l'ONG Amnesty International dans un communiqué de presse publié ce mardi. Selon cette organisation, le ministre de la Justice de la RDC, Constant Mutamba, qui a annoncé le 5 janvier dernier que plus de 170 personnes soupçonnées d'être liées à des gangs criminels communément appelés Kuluna ou Bandi avaient été transférées de la capitale de Kinshasa à la prison d'Angenga dans le nord-ouest du pays pour y être exécuté. Pour la directrice adjointe du programme Afrique de l'Est et Afrique australe d'Amnesty International, l'annonce de ces transferts de prison est absolument consternante. Elle dit craindre des exécutions massives et imminentes de la part des autorités en raison du manque d'informations fiables sur les statuts des personnes condamnées à mort. Quel lectif faites-vous de cette alerte lancée par l'ONG Amnesty International? C'est autour de cette question que nous allons échanger pendant environ 55 minutes dans ce nouveau numéro de paroles aux auditeurs de ce mercredi 8 janvier 2025. Vos réactions sont les bienvenues sur la page Facebook Parole aux auditeurs. Vous pouvez aussi écrire à l'adresse pa@radiocapi.net pour réagir dans le groupe WhatsApp des Paroles aux auditeurs ou encore intervenir en direct en composant le 099-706-80-79. Je répète, le 099-706-80. Alain Goy est à la mise en onde de ces magazines. Nelson Nyombe et Paul Bajanyama à la vidéo et Julie Fezabongonda en assure la réalisation et la coordination. À la présentation, Guy Maté.
Okapi Métissage fait le point sur l'actualité culturelle d'ici et d'ailleurs. Au menu, musique, théâtre, art plastique, littérature, poésie, mode, gastronomie et tout ce qui se rapproche de la culture. Tous les samedis de 17h à 19h. En rediffusion, dimanche de 13h à 15h. Okapi Métissage, le creuset de la culture et des arts sur Radio Okapi.
Parole aux auditeurs.
Encore une fois, bienvenue dans ces nouveaux numéros de Parole aux auditeurs et merci à tous ceux qui ont déjà réagi sur la page Facebook et aussi qui se sont inscrits pour réagir. Nous parlons aujourd'hui, comme je l'ai dit, de l'alerte lancée par l'ONG Amnesty International sur la menace faite par le gouvernement congolais d'exécuter 170 personnes soupçonnées d'être liées à des gangs criminels communément appelés Kuluna. Et pour échanger sur ce sujet, nous allons avoir dans cette émission en ligne depuis Bruxelles Jean-Maubert Senga. Il est avocat et chercheur principal sur la RDC Amnesty International. Et on me signale qu'il n'est pas encore en ligne, mais nous avons quand même quelques réactions ici. Il y a des auditeurs qui nous ont écrit. Il y a depuis la ville de Goma au Nord Kivu, Arsène qui dit les autorités congolaises devaient s'attaquer beaucoup plus aux causes que de condamner les faits. Des pays où la jeunesse est bien encadrée, les Kuluna n'existent pas. Sami Kalambay, depuis Lubumbashi, dans cette affaire, c'est nous, le peuple, qui en souffre. Mais moi, je pense que la politique pratiquée en Afrique, particulièrement en RDC, c'est une politique de la honte. Arsène, depuis Goma, une fois de plus, en fait, c'est les mêmes Arsène, apparemment, qui avaient déjà réagi. Et ce qui nous pousse à aller à Lubumbashi avec Ismaël Mupoy, et depuis Lubumbashi, il dit dans cette c'est cette même ONG qui condamnait les autorités pour ne rien faire face à cette insécurité. Maintenant, c'est encore elle qui élève les tons contre la République. Donc, ce sont eux qui étaient derrière ces bandits. Pourquoi faire ce genre de déclarations pour attirer de l'ostracisme à notre République? D'ailleurs, ils ont tué, pillé, violé et combien de vies nous avons perdues? C'est la question qu'ils posent à mon humble avis. Si ces bandits seront tué, c'est pour répondre au règlement biblique, je cite, peau pour peau, âme pour âme. Voilà, ça c'est les propos d'Ismaël Mopoy qui écrit depuis Goma. Que le gouvernement ne cède pas à cette intimidation des personnes mal intentionnées qui condamnent les biens comme les faux. Nous avons tous besoin de la sécurité et la quiétude, car comment expliquer ces bandits tuent en présence de cette même ONGD et il n'y a rien comme interpellation. Et quand le gouvernement veut mettre fin à cette insécurité sans honte ni pideur, il démontre comment le gouvernement agit mal. Clément Mukadi Diango de Mbujimayi, il dit que cette ONG pourrait avoir raison. Toutefois, il ne faut pas vouloir une chose et son contraire. Il y a si bien longtemps que les gens dénonçaient ces phénomènes et voyaient comment ces bandits endeuillaient des familles. Aujourd'hui, la justice prend les décisions d'endiguer ces phénomènes en commençant à brandir l'innocence. Vraiment, il faut des fois prendre des décisions courageuses. S'il y a les innocents qui vont mourir, pas de souci, car des innocents sont morts et certains sont restés handicapés. Ça, c'est Clément Mukadi. On signale que notre invité est là. C'est Maître Maubert Senga. Il est avocat, il est chercheur principal sur la RDC Amnesty International. Bonjour, Maître Maubert Senga.
Bonjour, Guy Maté.
Merci de vous être rendu disponible pour participer, n'est-ce pas, à cet échange citoyen. J'en profite aussi pour vous présenter à vous ainsi qu'à toute votre famille nos vœux les meilleurs pour cette nouvelle année 2025.
Merci beaucoup. Je fais pareil pour vous et pour vos auditeurs.
Merci. Alors, Maître Maubert Senga, d'abord, quand vous réagissez ainsi, on sait que l'Amnesty International, c'est pas n'importe quelle ONG. Apparemment, vous êtes bien informé. Lorsque vous réagissez ainsi, est-ce que vous avez des informations fiables selon lesquelles le gouvernement finira par mettre à exécution sa menace de tuer ces délinquants appelés communément Kuluna? Vous avez ce genre d'informations?
Alors, l'effet qu'on a, c'est que le gouvernement a annoncé au mois de mars 2024 qu'il allait mettre à exécution les personnes condamnées à mort. Il a précisé les catégories des personnes concernées et les jeunes délinquants ou présumés délinquants qu'on appelle communément Kuluna à Kinshasa font partie de cette catégorie. Ensuite, il y a eu les déclarations multiples de responsables du gouvernement, en particulier de l'actuel ministre de la Justice, Constant Mutamba, qui a répété plusieurs fois que ces jeunes gens-là seront arrêtés, condamnés à mort, exécutés. Donc enfin on a la vague de transfèrement de centaines de ces jeunes gens de Kinshasa vers la prison de Angenga dans le sud de Ubangi, avec encore une fois des déclarations claires indiquant qu'ils y vont pour ne jamais retourner, qu'ils vont être exécutés, etc. Et quand des responsables du gouvernement à ce niveau-là de responsabilité font des déclarations pareilles, on ne peut que les prendre au mot, et ce sont des menaces très graves, et peut-être qu'on va y revenir, le fait même qu'on déclare à des gens, allez, dites adieu devant caméra, dites adieu à vos familles, à Kinshasa, etc., c'est un supplice supplémentaire et inutile, et donc c'est pour cela que nous prenons cette menace très au sérieux, et que nous appelons le gouvernement à arrêter tout de suite tout plan visant à exécuter des gens.
Oui, vous évoquez dans votre communiqué le chiffre de 170. On se rappelle que c'est ce chiffre qui avait été évoqué par l'AP récemment. Et l'AP était revenu, n'est-ce pas, sur cette information. Il avait même présenté des excuses pour dire que c'était des fausses informations. Et donc, vous vous êtes basé sur cette information, Maître Maubert Senga?
Non, pas du tout. Alors, il y a deux choses. L'Associated Press, qui est une agence d'information américaine, a parlé plutôt de personnes exécutées. Elle a dit que 102 personnes avaient déjà été exécutées. Et c'est sur cette information qu'elle est revenue en disant non, ces personnes ont plutôt été transférées à Anginga en attente de leur exécution. C'est ça la vraie information. Et nous ne la tenons pas de la société de presse, nous la tenons des autorités elles-mêmes directement, qui ont reconnu que à ce jour, disons jusqu'au 5 janvier, au dimanche 5 janvier, 172 personnes avaient été transférées de Kinshasa à Angenga en prévision de leur exécution. Donc ça, c'est l'information officielle des autorités congolaises.
Alors, toujours dans ces communiqués, le communiqué d'Amnesty International, vous demandez au président de la République de stopper l'exécution massive de plus de 170 personnes. Alors, je suppose que vous lui demandez d'arrêter plutôt les processus qui peuvent aboutir à l'exécution effective de ces Kulunas. Et qu'est-ce que vous proposez comme alternative? Ça pourrait être quoi l'alternative à l'exécution de la peine de mort au maître Mubert Singa?
Alors, l'alternative immédiate, c'est de garder ces personnes en vie si elles ont commis des crimes, comme les autorités semblent le dire. Il y a d'autres peines qui sont reconnues dans le code pénal congolais. Il y a la prison, la peine de prison. Il y a d'autres types de peines qui sont prévues. Mais là encore, nous n'allons pas nous contenter de dire que ces personnes, si elles sont jugées coupables par un tribunal indépendant et impartial, ce qui n'est pas toujours le cas, hélas, dans le cas de ces procédures, comme on l'a dit, les peines, les condamnations sont annoncées par le ministre avant même que les gens soient arrêtés et transférés devant un juge. Donc on sent bien que la justice ne joue qu'un rôle de validation, en quelque sorte, de décision politique prise à l'avance par le ministre ou le gouvernement. Mais bref, pour revenir sur votre question, l'alternative à la peine de mort, c'est la peine de prison, mais ça peut également être d'autres types de mesures pour resocialiser ces personnes. C'est important, par exemple, que les autorités comprennent et essaient de traiter la cause à la racine. Qu'est-ce qui pousse des centaines, des milliers de jeunes dans la délinquance dans une ville comme Kinshasa, où nous savons que la ville manque de tout, d'infrastructures, de structures d'encadrement professionnel des jeunes, d'emploi, etc. Ben, si on ne traite pas ce problème, et l'État a la responsabilité de les traiter, c'est normal qu'il y ait des milliers de gens désœuvrés qui recourent à la violence pour comme leur seule source de vie. Et un gouvernement responsable ne peut pas juste dire celui qui tue, on va le tuer aussi, sans chercher à savoir pourquoi cette personne en est arrivée à tuer, en est arrivée à voler, en est arrivée à incendier ou attaquer des gens dans leur maison ou sur la voie publique. Et si donc ce problème à la racine n'est pas traité, on risque on va tuer jusqu'à quand, en fait.
Donc, oui, Maître Mubert Singa, oui. On vous accuse, en fait, on accuse les ONG de défense des droits de l'homme d'être trop complaisantes, n'est-ce pas, vis-à-vis des bandits Kuluna. On se rappelle que le phénomène Kuluna sévit en RDC depuis, n'est-ce pas, plusieurs années. Et on n'a jamais, n'est-ce pas, on n'a jamais entendu Amnesty International condamner les comportements de ces jeunes délinquants. Et du coup, comme je l'ai dit, une certaine opinion pense que les ONG ont tendance à cautionner les actes de violence de ces délinquants Kuluna et à l'endroit de la population, parce que les ONG, malheureusement, ne dénoncent pas les forfaits, les comportements de ces Kuluna, les forfaits que ces Kuluna commettent.
Mais cela n'est pas vrai. Ça dénote soit de la malhonnêteté, soit de l'ignorance de la part de ceux qui profèrent ces genres d'accusations. Le système international de défense des droits de l'homme est très connu, est bien connu, en tout cas par ceux qui veulent le connaître, surtout à l'heure de l'Internet. Les droits internationaux protègent les gens, les humains, les hommes et les femmes, contre les abus de l'État et contre les abus d'autres entités qui ont le pouvoir, qui ont plus de pouvoir qu'un individu. Cela commence par là. Ce sont les États qui signent les conventions internationales comme la Convention sur les droits civils et politiques ou sur les droits socio-économiques, etc. Et ce sont les États qui ont l'obligation de respecter ce qui est contenu dans ces conventions. Ce ne sont pas les individus. Les individus sont sous l'autorité de l'État, elles subissent plus ou moins. Si l'État veut vous arrêter, il va vous arrêter. Si l'État veut vous torturer, il va vous torturer. S'il veut vous éliminer, il va vous éliminer. Donc nous, nous sommes là pour protéger les plus faibles dans l'équation. Et les plus faibles, ce sont les citoyens, même si ce sont des gens qui commettent des crimes, ou en tout cas qui sont accusés de commettre des crimes, ils restent faibles par rapport à la puissance de l'État.
Merci.
Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que nous ne disons pas que ce qu'attaquer les gens dans leur maison, tuer, violer, éventrer des femmes, etc., que cela est bien. Nous disons que c'est un crime, mais ce crime mérite d'être traité dans le respect de la loi. C'est-à-dire, les gens, ceux qui l'ont commis doivent être appréhendés, présentés devant un juge, avoir le droit de se défendre, etc., et être éventuellement condamnés si elles sont trouvées coupables, mais leur condamnation ne doit pas résulter dans leur élimination physique. Parce que, comme je l'ai dit, il y a le crime qu'ils ont pu commettre, mais il y a également la responsabilité de l'État qui les a délaissés et qui est, en fin de compte, responsable même de leur criminalité.
Merci, bienvenue si vous nous rejoignez sur Radio Capi. Vous suivez en ce moment votre magazine Parole aux auditeurs. Nous parlons aujourd'hui de l'alerte lancée par l'ONG Amnesty International sur la menace faite par le gouvernement congolais d'exécuter 170 personnes soupçonnées d'être liées à des gangs criminels communément appelés Kuluna. On en parle avec notre invité Jean-Maubert Senga, qui est avocat et chercheur principal sur la RDC à Amnesty International. Si vous voulez réagir, vous pouvez appeler aux 09 976 80 79. Nous allons à présent ouvrir notre standard avec tous ces auditeurs qui sont déjà en ligne. Maître Patrick Odia. Patrick, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour Maître Patrick.
Bonjour à Maître Nsenga aussi, à tous les auditeurs de la Radio Capi.
Allez-y Maître Patrick Odia.
Oui, merci de m'avoir associé à ce niveau du débat pour traiter de la question de l'insécurité liée au Kuluna, ce phénomène que nous décrions tous. Je pense que l'honoré confrère qui est dans le studio, qui représente l'amnistie, est même victime, parfois même sa famille peut être victime de ces actes commis par ces familles Kuluna également. Alors, il y a lieu de pouvoir encourager les gouvernements tout en faisant des critiques constructives qui peuvent permettre à ce que l'État ne puisse pas dérober également. Je n'y n'ai censé ignorer que dans les attributs de l'État, la puissance publique, c'est un attribut de l'État qui constitue même le fonctionnement de l'État. Alors, lorsque la puissance publique est menacée, l'État se doit de prendre des mesures impératives qui peuvent permettre à ce que sa sécurité, la sécurité de l'intégrité du territoire et aussi des biens et des populations soient également maintenues. C'est dans ces cadres que le gouvernement congolais prend des mesures. Parce que d'une part, lorsque l'amnistie, on tue, on fait ceci, on coupe les bras, l'amnistie ne fait pas de pression. Là, nous n'en avons jamais senti. Je le prends à témoin. Mais lorsqu'on essaie de pouvoir prendre des réponses, des ripostes, ou j'allais dire des questions ou des mesures, bien que dures, pour contrer ces fameux phénomènes également, là, l'amnistie s'élève parce que, à un certain niveau, il faut qu'on se le dise également ouvertement la vérité. Je me dis, au regard de la déclaration faite par l'ONG Amnesty également et la directrice, voire même le maître également, je me demande, parce que je suis juriste également, quels sont les droits ou les dispositions qui ont été violées de par les mesures d'exécuter la peine de mort. D'autant plus, et les dispositions internationales, j'allais dire l'arsenal des textes internationaux, notamment les pactes internationaux, et la charte également, prévoient également à l'article 6.6.2.1.3.4 du pacte international, prévoit une exception au cas où l'État se doit ou a prévu dans son arsenal juridique une disposition ou un cas ou une répression pouvant réprimer la peine de mort. Et ça a été prévu, et les tests nationaux, et les tests également, internationaux également. La Constitution renvoie à une loi organique, à une loi spécifique, qui est le Code pénal, qui prévoit également ces actes. Je ne vois pas en aucun cas l'État congolais en train de violer les dispositions pertinentes également. S'il y en a, je mets le maître de fille de pouvoir me relever ne fût-ce que quelques dispositions sur le plan international, moins encore sur le plan national,
qui serait violée par l'État congolais en prenant des mesures, en exécutant, ne fût-ce que la loi et aussi les décisions juridiques. Néanmoins, nous pouvons faire des critiques par rapport à la procédure jusqu'à l'aboutissement de l'exécution de la peine de mort. Si au niveau des civils, on parle de la pendaison, si au niveau des militaires, on parle des tirs de balles et autres, il faudrait que l'assistance juridique soit effective pour permettre à ce que la personne soit informée de la grâce ou de la demande de grâce auprès du président de la République. Ce sont au moins des mesures de débat devaient se situer à ce niveau, mais critiquer à tout prix l'exécution, je pense que c'en est de trop. Nous, les peuples congolais, nous sommes d'accord parce que l'État congolais n'a jamais rectifié les protocoles additionnels au niveau international qui interdisaient l'abolition de la peine de mort. Je pense que c'est un faux débat. On devait plutôt se situer sur comment l'État congolais se prévoit pour pouvoir réglementer, voire même la procédure tendant à exécuter définitivement la peine de mort. Et si vous demandez, 9 Congolais sur 10 sont d'accord avec cette mesure, mais l'État congolais est souverain. Je ne vais pas ici rappeler au maître la souveraineté de l'État congolais, mais nous n'avons pas à recevoir des injonctions venant de l'Amnesty International, d'autant plus que l'Occident, notamment les États-Unis, la Russie et les autres, continuent d'appliquer la peine de mort. Mais comment cela pourrait également déranger certaines sensibilités alors qu'il y a l'État de l'Est? Ne nous amenez pas jusqu'à critiquer sévèrement cette façon de pouvoir faire les choses en République démocratique du Congo. Voilà un peu de manière express ce que je peux dire également quant à cette question également, en disant qu'il n'y a aucune disposition sur le plan international, ni sur le plan national qui a été violée, mais parfois nous pouvons essayer d'être vigilants par rapport à la procédure jusqu'à l'obtention de la grâce ou au rejet et pour pouvoir exécuter à peine et tout en évoquant également la souveraineté de l'État congolais.
Merci Maître Patrick Odia. Nous allons maintenant à Kisangani dans la province de la Tchopo où Christian Kasese nous appelle. Il est chercheur en droit interne et international. Christian Kasese, bonjour.
Oui, bonjour cher journaliste. Mes salutations également à l'invité. Je voudrais aborder la thématique d'aujourd'hui à laquelle j'ai le privilège d'être associé dans deux langues, l'angle juridique et l'angle criminologique. Dans l'angle juridique, je voudrais d'abord inscrire un peu les déclarations de notre parti qui venait d'intervenir pour lui dire que la peine de mort est de l'idée inconditionnelle en aide de ce pourquoi. Parce que déjà, quand vous lisez l'article 16 qui affirme la sacralité de la vie humaine, et qui est complété par l'article 61 qui institue le droit indérogeable en ces termes, en aucun cas, et même lorsque l'état de crise d'urgence est proclamé, il ne peut être dérogé au principe et droit qui la cause. Au premier alinéa, vous verrez le droit à la vie, l'interdiction de la torture, la peine ou le traitement humain est dégradant. Donc, dès lors que le constituant a érigé le droit à la vie comme étant un droit indérogeable, il n'est pas une question de pouvoir lutter sur l'inconditionnalité de la peine de mort. Encore que je lui rappelle d'abord que le juge pénal, il est institué par le code pénal, n'est pas juge de conditionnalité, mais juge de légalité. Donc lui, il paraît tout simplement avoir une sanction peine sous le coup d'une procédure pénale.
Monsieur Christian, oui, on a du mal à bien vous suivre. Est-ce qu'il y a possibilité de hausser un peu la voix ou alors vous sortez de, si vous êtes dans une maison, vous sortez de la maison?
Ok.
Parlez avec beaucoup plus de vivacité.
Je m'en vais déjà sur l'aspect chronologique ici, finalement, nous permet de comprendre le phénomène criminel et le passage à l'acte criminel. Et ici aujourd'hui, tous les criminologues ont démontré, que ce soit les rétentionnistes ou les abolitionnistes de la peine de mort, que l'abolition de la peine de mort ne diminue pas la criminalité, tout comme son métier ne la croit pas. Néanmoins, il y a des criminologues, à l'occurrence de Médicen, qui nous a démontré que la criminalité est un phénomène social de la société, tout simplement parce que la criminalité rime avec l'humanité. Et qu'en conséquence, on ne peut pas y mettre fin. Néanmoins, on peut vouloir à chaque fois savoir qu'est-ce qui pousse l'individu à passer à l'acte criminel. Et également, on est auteur à la personne de l'éminent juriste César, il nous a démontré César de Caria, qu'on ne peut recourir à la peine de mort que lorsque elle s'avère le seul moyen à lutter contre la criminalité. La question que nous devons nous poser dans notre, dans le contexte congolais, est-ce aujourd'hui le seul moyen de lutter contre le phénomène commun et d'exécuter ces prisonniers délinquants? Moi, je ne crois pas. C'est pour cela, moi, je veux plutôt inviter le gouvernement congolais à rester devant ses responsabilités et aller chercher les causes profondes liées à cette dégénérescence et finalement revenir démontrer que réellement il y a des individus qui se sont, qui ont été jugés incorrigibles et que, encore, en conséquence, on pourrait instituer des recettes. D'ailleurs, déjà, la peine a prouvé, la peine de pouvoir perpétuer, mais déjà, le délinquant hors d'état de nuit. C'est tout ce qu'en réalité, c'est de façon mesquine qu'on recourirait à l'exécution de la peine de mort. Et donc, à mon niveau, je crois que le gouvernement congolais doit cesser de casser le thermomètre, le doit plutôt soigner la fibre. Tout ce qui soutient aujourd'hui la condamnation de l'exécution de Kounouna, ils doivent d'abord s'assurer que ces derniers ont droit à un procès équitable. Nous avons tous suivi ici des procès conclus en dehors de la RTNC. Nous avons vu avec quelles difficultés les études de l'État public tiennent à trouver réellement les charges mises à contre de tous ces enfants aujourd'hui arrêtés. Et d'autres chercheurs même ont démontré que la peine de mort a tendance à s'appliquer le plus souvent auprès des classes sociales défavorisées. Et voilà, je dis tout le monde
Merci Christian.
Je me rappelle encore que...
Merci Christian, on a compris votre message, on n'a pas tout le temps. Jean-Maubert Senga, avocat, chercheur principal sous la RDC à Amnesty International, vous avez la parole. Répondez aux préoccupations des maîtres Patrick Odia et de monsieur Christian.
Merci beaucoup à maître Odia et à Christian à Kisangani. Je vais commencer par Odia parce que maître Odia parce que Christian, on est plutôt allé dans le même sens. Maître Odia soulève des points importants et je vais répondre à trois d'entre eux. Le premier, c'est la question de la loi, la légalité. Quelle est la disposition légale dans le droit interne ou dans le droit international qui interdit l'exécution de la peine de mort? Je vais d'abord dire sur le principe, il a raison, la peine de mort en tant que telle est toujours permise en droit international. Il a cité quelques articles. Cependant, le droit international ne se limite pas, comme maître doit le savoir, aux conventions internationales. Quand on parle de normes internationales, on ne dit pas forcément les traités. Et les juristes qui nous suivent le comprennent. On inclut également les résolutions, par exemple les résolutions de l'Assemblée générale de l'ONU, les résolutions de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, certaines résolutions du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, etc. Tout cela fait partie de l'arsenal qu'on appelle normes internationales. Et si je ne m'en tiens qu'à la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, il y a plusieurs résolutions générales ou spécifiques qui demandent aux États qui n'ont pas encore aboli la peine de mort. Et je dois rappeler que ces États-là sont minoritaires. Donc aujourd'hui, la plupart des États ont plutôt aboli la peine de mort. C'est-à-dire qu'il y a une tendance au niveau mondial à abolir la peine de mort. Et la RDC, pendant 20 ans, s'est inscrite dans cette tendance. Ce qui signifie que revenir aujourd'hui sur l'exécution en RDC, même sur le plan politique, reviendrait à un recul que nous avions réussi à dépasser pendant plus de 20 ans. Mais la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples recommande aux États qui n'ont pas encore aboli la peine de mort dans leurs arsenaux juridiques d'adopter un moratoire contre son exécution en attendant l'abolition pure et simple. Il recommande également, au niveau des Nations Unies, il y a plusieurs résolutions de l'Assemblée générale de l'ONU, mais également du Conseil des droits de l'homme, qui demandent aux États d'adopter un moratoire faute ou en attendant l'abolition pure et simple. Mais même en s'en tenant aux dispositions de cet instrument international qui permet encore la peine de mort, parce que les États n'ont pas voulu l'enlever, il est prévu que ce soit dans les cas les plus graves, et que ce soit à l'issue d'un processus judiciaire irréprochable.
Donc, les crimes les plus graves, on ne peut pas dire que le vol à main armée soit un crime grave. C'est abominable pour les victimes, c'est clair, mais on ne peut pas comparer cela aux crimes des génocides, aux crimes de guerre, crimes contre l'humanité, à des massacres de masse, etc. Mais en plus, donc sur la transparence et sur le processus judiciaire pouvant conduire à l'exécution de cette peine, là encore, les normes sont extrêmement exigeantes. Et je l'ai dit tout à l'heure, dans le contexte de la RDC, où d'ailleurs ces peines sont prononcées par des tribunaux militaires qui, là encore, ne devraient pas normalement traiter des civils, même quand des civils ont utilisé des armes. Eh bien, on voit que ces jeunes gens-là sont arrêtés. Le lendemain, on les présente devant un juge. Le surlendemain, ils sont condamnés à mort. Et avant même le procès, il y a un ministre qui vous a dit « Nous allons les prendre, nous allons les condamner à mort, etc. » Comme si lui, c'était le juge ou le procureur. Il est ministre de la justice, il n'est pas procureur. Et lorsqu'il dit à l'avance que ces gens vont être arrêtés et condamnés à mort, il se pose un problème de l'indépendance même de cette justice. Maintenant, sur l'autre point qu'il a évoqué, c'est celui du sentiment d'insécurité et de la rigueur que le gouvernement veut appliquer. Nous, notre réponse, elle est celle-ci. C'est vrai que nous ne disons pas à chaque fois que les Kuluna ont attaqué des gens à Massina, nous n'allons pas sortir un communiqué, mais nous disons de façon constante que le gouvernement doit assurer les droits économiques et sociaux de tous les Congolais, y compris en luttant plus efficacement contre la corruption, pour qu'il y ait des écoles, pour qu'il y ait des centres de formation, pour qu'il y ait des entreprises, des emplois, etc. Et cela ne se fait pas. Donc le phénomène Kuluna ne vient pas du hasard, du néant. Il vient d'une situation socio-économique que l'État est censé traiter. Mais cet État est défaillant quand il s'agit d'améliorer les conditions socio-économiques de la population, mais il est aux abonnés absents, et c'est quand les citoyens dont il devrait s'occuper deviennent des criminels qu'il est là pour dire « Ah ouais, nous allons vous exécuter ». Mais peut-être que les premiers à subir la rigueur de la loi devraient être ceux qui détournent des millions de l'argent public. Je ne dis pas qu'il faut les exécuter non plus, mais en tout cas, on devrait voir plus de rigueur à ce niveau-là. Merci. Pour assurer que l'État a les moyens de prendre en charge les citoyens et que Merci. Les citoyens ont les moyens optimaux pour vivre une vie sans violence, sans devoir s'entretuer.
Merci, M. Robert.
Voilà.
Merci, nous allons encore retourner à notre standard où on écoute d'autres auditeurs qui sont en ligne. Ici, nous allons à Mahagui avec Sylvain. Sylvain, bonjour.
Oui, bonjour Guy Maté. Je vous disais hier que c'est l'État congolais qui a créé les Kuluna. Aujourd'hui, on veut les exécuter. Bon, moi j'ai dit ceci, et ce n'est pas moi, puisque mon ASBL, les ambassadeurs de bonne volonté, nous disons au-delà des droits internes, au-delà des droits internationaux, au-delà des normes internationales, la morale doit guider nos actes, attaques et dirigeants politiques. Quand vous lisez l'article 16 de notre Constitution, c'est très clair, la vie humaine est sacrée. J'ai aimé ce que l'invité a dit. Et si j'ai intervenu aujourd'hui, puisque tu sais, depuis 2013, quand j'ai créé mon ASBL, les ambassadeurs de bonne volonté, nous faisons un monitoring sans complaisance sur les droits humains. Aujourd'hui, même si l'État congolais adopte la peine de mort, et je le dirais même, j'allais souhaiter que ça soit sans exécution, je pense que l'objectif devait être pour faire peur aux gens qui dévient les normes de la société. Alors, je disais ceci, l'ASBL, les ambassadeurs de bonne volonté, ne soutiendra jamais l'exécution des Congolais.
Et donc vous auriez souhaité que ce soit juste de façon pédagogique, en fait une façon de dissuader ou de créer la peur, n'est-ce pas, dans les Kuluna. Mais hier vous étiez aussi là quand nous avons fait l'émission avec le vice-premier ministre de l'Intérieur, Maître Jacquemain Chabani, et je lui ai posé une question, c'est celle de savoir comment expliquer que au même moment où des Kuluna sont arrêtés, jugés, condamnés condamnés même à mort, et on brandit même, le gouvernement brandit des menaces d'exécuter ces Kulunas là. Pendant ces temps-là, il y en a d'autres qui continuent à commettre des exactions, qui continuent à commettre des forfaits. Et donc, c'est pour dire que même cette menace, qu'on brandit cette menace de mort-là, ne dissuade pas les Kulunas parce qu'ils continuent à sévir.
Je l'ai dit hier, il ne suffit pas de traquer avec l'opération Ndobo, il ne suffit pas de condamner, il ne suffit pas de menacer qu'on va les tuer. J'ai donné deux propositions. D'abord, il faut que nous puissions avoir des villages d'éradication, comme le Guantanamo au Kiba, il y a aussi ici, près de nous ici, il y a des prisons en Ouganda qui sont des prisons hautement sécurisées, où on les place. Mais la troisième chose, et la chose la plus importante, il faut les encadrer, il faut mettre des mécanismes de réinsertion dans la communauté, la réinsertion socio-économique, puisque moi, de toutes les façons, j'ai dit, c'est l'État congolais qui a produit le Kulunas. Puisque je dis toujours, si réellement nous aimons ce pays, donnons l'emploi à ces jeunes gens.
Merci. Merci,
on a compris. Rien ne sert qu'on dit, on va tuer quelqu'un alors qu'on on lui garantit pas le bien-être socio-économique.
Merci, Sylvain. On revient à Kinshasa avec Mike Mouka. Il est coordonnateur FDH, c'est une ONG des droits de l'homme. Mike Mouka, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Merci. Également à tous les auditeurs de Radio Capi.
Merci.
Oui, en tant que Congolais et en tant que l'une des victimes, l'indirecte, parce que je connais certains de mes proches qui ont été des victimes directes de Kulunas, qui sont présentement invalides, handicapés, ainsi de suite. Et je connais même une famille qui a perdu leur sœur. Alors qu'elle était enceinte, elle a été éventrée au niveau de l'échanger de l'unité, tuée par des Kulunas. Alors, pendant tous ces crimes, Amnesty International n'a jamais réagi. Moi-même qui vous parle, monsieur le journaliste, je peux vous témoigner un fait réel. Mon neveu, je l'envoie à l'école, on les menace par des Kulunas, j'ai fourni des efforts pour qu'ils soient aux arrêts. On les arrête. Vous savez ce que les Kulunas me diront? Donc, de toutes les façons, il y a un droit de l'homme. C'était ça le problème, le fait. Donc, ils sont conscients de ce qu'ils font. Et moi, je dirais que, au finish, les ONG de l'Amnesty International, ils sont des mèches avec ces Kulunas. Je ne peux pas dire directement, mais peut-être indirectement. Ils encouragent parce que les Kulunas sont conscients qu'ils sont soutenus par les ONG des droits de l'homme. Nous devons quand même équilibrer certaines choses. Il y a des dispositions juridiques. Il y a la loi organique qui autorise, avec par le moratoire et ainsi de suite, l'exécution de la peine de mort. Et ces pays occidentaux qui nous critiquent aujourd'hui, qui aiment bien voir nos pays africains demeurer dans l'instabilité totale, en vue de mieux nous exploiter, et ils recourent également à la peine de mort. Je peux vous filer un exemple récent. Aux États-Unis, il y avait un déséquilibré mental qui a roulé, qui a tué je ne sais pas combien de personnes. Il a été exécuté sur les champs. Prenons le cas de la France. On exécute également. La France qui s'est dit être le berceau des droits de l'homme, ainsi de suite. On exécute, on dit toujours non, ce sont des déséquilibrés mentaux, il faut protéger et sécuriser, ainsi de suite. Mais pourquoi pas ici en RDC? Ce sont des gens qui sont très dangereux des Kulunas. Moi, j'encourage le ministre Constant Mutamba, en tout cas, le gouvernement également. On doit recourir à la rigueur de la loi. Oui, certes, la loi est dure, mais c'est la loi.
Merci.
Ça fait normal.
Merci. Oui, merci également.
Que ces ONG-là ne soient pas des mèches avec les Kulunas. Parce que quand les Kulunas massacrent, quand les Kulunas tuent, elles sont là à les couvrir. On ne déclare pas. Mais quand le gouvernement veut réagir, voilà, on cherche comment manipuler l'opinion publique.
Merci, Mike.
Je sais, moi, je connais bien comment ces ONG fonctionnent. Aujourd'hui, on commence par défendre les Kulunas. Demain, elles finiront par défendre les éléments de M23 qui massacrent à l'est du pays, qui tuent, qui pillent et qui ne sont jamais condamnés par...
Merci, Mike. On a compris. Maître Maubert, Maître Jean-Maubert Senga, votre réaction, Sylvain plutôt, est allé dans les mêmes sens que vous, mais c'est plutôt Mike Mouka qui est aussi défenseur des droits humains, mais lui qui soutient, n'est-ce pas, cette mesure d'exécution de la peine de mort.
Oui, alors, comme l'auditeur de Mahag il a dit, il n'y a aucune preuve que l'exécution de la peine de mort réduit la criminalité. Dans aucun pays au monde, y compris les États-Unis que le monsieur tout à l'heure a cité, la France, elle a aboli la peine de mort il y a longtemps, mais les États-Unis et d'autres pays qui appliquent la peine de mort, il n'y a absolument aucune preuve, et tout le monde peut aller chercher sur Internet, qui démontre qu'il y ait une corrélation entre la réduction de la criminalité et l'application de la peine de mort. C'est une peine cruelle qui ne redresse pas le système pénal est censé aider les délinquants à se redresser et à se réinsérer dans la société, pas à les éliminer, d'autant plus que le système judiciaire n'est pas à l'abri des erreurs, surtout le système judiciaire congolais qui est malade, comme le président lui-même l'a qualifié. Comment voulez-vous qu'un système qui est malade juge d'autres malades pour ensuite les exécuter? Finalement, qui exécute qui? Qui devrait exécuter qui? Sur le plan légal, je l'ai dit, je le répète, le droit à la vie est protégé par la Constitution congolaise, il est sacré, et c'est le droit à la vie de tout le monde. La Constitution ne dit pas les droits d'un tel, les droits des gens qui se considèrent comme bons et les droits de ceux qui sont considérés comme mauvais par la société. C'est le droit à la vie tout court.
Voilà, les droits à la vie de tout le monde, comme vous le dites, les constats qui a été fait, hein, les ONG ont tendance, n'est-ce pas, à dénoncer lorsque c'est les droits des bourreaux, les droits des bandits qui sont bafoués, mais lorsque les droits des victimes, oui. Les ONG restent silencieuses malheureusement.
Non, mais ce n'est pas, même si on parlait, corriger. Qu'est-ce que cela allait changer? Là encore, c'est vraiment un mélange de genres très malheureux. Parce que lorsque les Kuluna attaquent des gens dans la rue, en fait, c'est à qui la faute? C'est encore une fois la faute de l'État. Ce n'est pas aux Kuluna d'assurer la sécurité, c'est à l'État qui a la police, qui a les services de renseignement, qui a les systèmes judiciaires, etc. C'est à cet État-là d'assurer la sécurité, de protéger les gens contre la violence des Kuluna et de mettre ces Kuluna là à l'écart, mais pas forcément de les éliminer. Donc l'État, il est défaillant pour protéger les citoyens. Et c'est à l'État que nous adressons en disant prévenez la violence et lorsqu'elle arrive, appliquez les mesures qui sont appropriées, prenez ces gens-là, jugez-les de manière correcte, transparente, etc. en respectant leurs droits, et s'ils sont en fin de compte trouvés coupables, mettez-les en prison. Merci. C'est aussi simple que cela, mais l'État ne le fait pas. Et donc, la peine de mort, c'est un peu comme une excuse, c'est un raccourci. Ah tiens, on a pas réussi à protéger telle dame qui s'est faite décapiter, mais on va quand même tuer sur la place publique le Kuluna qu'on a arrêté. Mais où étiez-vous lorsque cette femme s'est faite décapiter en premier lieu? Merci. Vous auriez dû être là pour l'empêcher d'être décapitée.
Merci, Maître Maubert.
C'est ça le rôle de l'État.
Merci, on revient encore à notre standard. Nous allons maintenant à Kisangani dans la province de la Tchopo. Emmanuel Limes Limbaya.
Oui, bonjour, monsieur.
Allez-y, allez-y, Emmanuel.
Ok, je voulais juste ceci. Dans un premier temps, je salue d'abord l'invité qui est dans les plateaux. Et je pense que mes préoccupations vont aussi des mêmes que nos auditeurs prédécesseurs, parce que j'ai bien suivi. Mais ce que je voulais juste dire est que l'affaire Kuluna ne fait pas de hasard. Donc cela relève d'une cause quelque part. Et cette cause-là, ça peut être une cause socio-économique, c'est-à-dire l'État a failli à ses devoirs. Alors, ce que je voulais juste dire, si peut-être on aurait arrêté ces Kuluna, au lieu de les garder en prison, donc c'est mieux que l'État puisse faire ne fût-ce qu'un chat. Hein? Donc, est-ce que ces Kuluna-là puissent aller travailler? Donc, ces Kuluna deviennent une unité de production. Donc, au lieu de les garder en prison, au lieu même de les tuer, ça ne vaut rien. Mais transformer ces Kuluna en unité de production, donner-leur des travaux pénibles, même en prison. Donc, on crée même une industrie ou la, créer même une entreprise pour eux qu'ils travaillent. Et donc, ce comportement sera inné dans leur tête, même si on va les faire sortir, ils auront déjà acquis une connaissance que donc dès que je suis à l'extérieur, il faut que je puisse travailler pour ma survie.
Merci, c'est ça la vocation d'une prison.
C'est la vocation d'une prison.
Rééduquer les gens.
Ok, là, vous dites une prison. Oui, de l'éduquer, qu'on apprend à travailler.
Merci,
Jean-Claude. C'est que c'est qu'on a travaillé péniblement.
Merci, Emmanuel. Hein? Maître Jean-Maubert Senga, vous avez suivi, hein, en fait, les avis sont partagés, mais ici, dans les contextes congolais, on fait face à un problème inquiétant, n'est-ce pas? Et maintenant, parce que vous, ONG, vous refusez que l'on puisse, que l'État congolais prenne des mesures pour réduire sensiblement, n'est-ce pas, la menace des Kulunas sur la population. À votre avis, comment peut-on concilier les impératifs de la promotion des droits de l'homme et la nécessité de lutter contre l'impunité?
Oui, merci Gumaté. Je vais d'abord me permettre de vous corriger. Nous ne refusons pas que l'État congolais prenne des mesures pour réduire la criminalité. Absolument pas. Bien au contraire, nous voulons que l'État prenne les mesures, mais les mesures appropriées pour réduire la criminalité. Et nous disons que la peine de mort, l'exécution de la peine de mort et les rafles comme ça, les transferts des gens dans la forêt à Nguenga, que le ministre appelle à son aise prison de haute sécurité, je ne sais pas ce qui en fait une prison de haute sécurité à ses yeux. Si ce n'est que c'est une prison isolée au milieu de la forêt où les gens meurent de faim, où les détenus meurent de faim à tour de rôle et de maladie. Je ne sais pas ce qui en fait une prison de haute sécurité. Mais bon, donc je disais, faire ces rafles, renvoyer les gens, les exécuter, ce n'est pas ça une mesure d'un État responsable. C'est une mesure populiste, inutile et d'un État finalement irresponsable qui n'est pas en mesure de traiter le problème.
Comment concilier, n'est-ce pas, les impératifs de la promotion des droits humains et la nécessité de lutter contre l'impunité?
J'en viens. Évidemment, en observant les lois, y compris les normes internationales, lorsqu'il s'agit d'abord la prévention, comme je le disais. En premier lieu, il faut prévenir la criminalité, c'est-à-dire assurer que les forces de sécurité sont en nombre et ont les moyens suffisants, sont suffisamment payées pour assurer la sécurité dans les quartiers de Kinshasa, Massina et ailleurs où ces gangs opèrent, et donc les empêcher en premier lieu d'agir, d'intervenir. En deuxième lieu, répondre aux causes même de l'existence de ces phénomènes. Ces jeunes gens-là auraient pu être journalistes comme vous ou avocats comme moi. Certains ont peut-être pu aller à l'école, mais ils n'ont pas d'emploi. Que voulez-vous qu'ils fassent? Je ne dis pas que la violence se justifie. Il y a des gens qui n'ont pas de travail, mais qui ne sont pas violents tout autant. Voilà. Il y en a ceux qui le deviennent, et la manière pour l'État un État responsable, j'entends, de résoudre le problème, c'est de les traiter à la base et de se dire comment ces jeunes gens sont devenus violents et qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on leur donne des opportunités, est-ce que on les envoie voir des psychiatres ou des psychologues pour les désintoxiquer, etc.
Merci,
et enfin, lorsque ces actes ont quand même été posés, lorsqu'il y a une femme qui a été décapitée ou des gens qui sont éventrés, etc., ces violences, arrêter les responsables, les juger, les mettre en prison. Et s'assurer que là aussi, les conditions dans les prisons sont des conditions humaines, ce qui n'est pas le cas, encore une fois.
Merci, donc, nous tendons vers la fin de l'émission. On va donner la parole à un dernier auditeur, c'est Jean-Claude Mounagna de Kinshasa. Jean-Claude, bonjour.
Bonjour Radio Capi.
Bonjour, soyez vraiment concis parce que on finit en fait on a défini l'émission.
Oui,
vous avez juste 30 secondes.
Moi je Merci, je trouve que les ONG sont sont complices de banditisme et rebelle à notre pays. Parce qu'il n'y a pas de droit sans obligation. Nous n'avons jamais vu les ONG en train de dissuader ces gens-là pour ne pas commettre les forfaits. Donc, ils sont en quelque sorte complices des forfaits. Parce qu'il n'y a pas seulement que les, parce qu'ils n'ont pas de travail. Il y en a qui sont de bonnes familles, mais qui se livrent à ces gens de pratiques. Des très bonnes familles, mais qui se livrent, donc c'est pas seulement par manque de travail.
Merci. Monsieur, on vous a compris. On vous a compris, ouais. Monsieur Jean-Claude. Ouais. Et donc, pour vous, les ONG sont complices. Maître Jean-Maubert Senga, je rappelle que vous êtes avocat et chercheur principal sous la RDC Amnesty International. Nous sommes à la fin de l'émission. Vous allez devoir conclure. Vous avez suivi, Monsieur Jean-Claude, qui dit que vous êtes, vous, ONG, vous êtes complice de ces Kuluna. Et l'autre question, avec laquelle on va finir cette émission. Pourquoi les ONG ne tentent pas de prévenir ce genre de situation, n'est-ce pas, en se lançant, par exemple, dans des démarches de sensibilisation de la jeunesse d'un pays?
Allez-y. Mais il y a des ONG qui le font. Ce n'est pas notre mandat, mais il y a des ONG qui le font. Mais encore une fois, que toutes les ONG du monde ne vont pas remplacer l'État. C'est à l'État de faire son travail, de prévenir les crimes. Pour le reste, on n'est pas responsable. On n'est pas, je sais pas moi, complice de quoi. On défend les droits humains, que ce soit ceux des Kuluna ou ceux du monsieur qui a parlé tout à l'heure, lorsqu'ils sont violés face à un État qui souvent fuit ses responsabilités. Notre appel est clair. Le président Tshisekedi doit mettre fin à tout plan visant à exécuter les gens.
Merci.
Deuxièmement, le gouvernement doit adopter un moratoire contre la peine de mort en attendant son abolition pure et simple. La peine de mort, ce n'est pas celle-là qui va résoudre le problème. Ça va juste donner...
Merci, maître Jean-Maubert. Merci, c'est par là que nous terminons cette émission. Nous disons merci à notre invité Jean-Maubert Senga, qui est avocat et chercheur principal sur la RDC à Amnesty International. Merci aussi à tous ceux qui sont intervenus dans cette émission. Merci également à Alain Goy, qui était à la technique, Paul Badianyama et Nelson Nyombe à la vidéo, Julie Feza Bongunda, qui l'a réalisé et coordonné sous la supervision de Martin Sebujangwe, à la présentation Guy Maté. Merci une fois de plus. Bonne suite des programmes sur Radio Capi. On se retrouve demain avec un autre thème. Thank you.